Chapitre 12 Délivrance. Non, pensait Germain, c'est impossible. Cet homme, qui s'exalte ainsi au seul mot d'honneur et de cœur, ne peut avoir commis ce vol dont il parle avec tant de cynisme. Le Chourineur continua sans remarquer l'étonnement de Germain. Finalement, ce qui fait que je suis à M. Rodolphe comme un chien est à son maître, c'est qu'il m'a relevé à mes propres yeux. Avant de le connaître, je n'avais rien ressenti qu'à la peau, mais lui, il m'a remué en dedans, et bien à fond, allez. Une fois loin de lui et de l'endroit qu'il habitait, je me suis trouvé comme un corps sans âme. À mesure que je m'éloignais, je me disais, « Il mène une si drôle de vie, il se mêle à de si grandes canailles, j'en sais quelque chose, qu'il risque 20 fois sa peau par jour. » Et c'est dans une de ces circonstances-là que je pourrais faire le chien pour lui et défendre mon maître, car j'ai bonne gueule. Mais d'un autre côté, il m'avait dit « Il faut, mon garçon, vous rendre utile aux autres. Allez là où vous pouvez servir à quelque chose. » Moi, j'avais bien envie de lui répondre « Pour moi, il n'y a pas d'autre à servir que vous, monsieur Rodolphe. » Mais je n'osais pas. Il me disait « Allez, j'allais. » Et j'ai été tant que j'ai pu. Mais, tonnerre, quand il a fallu monter dans le sabot, quitter la France, et mettre la mer entre moi et Monsieur Rodolphe, sans espoir de le revoir jamais, vrai, je n'en ai pas eu le courage. Il avait fait dire à son correspondant de me donner de l'argent gros comme moi, quand je m'embarquerai. J'ai été trouver le monsieur, je lui ai dit, « Impossible pour le quart d'heure, j'aime mieux le plancher des vaches. » Donnez-moi de quoi faire ma route à pied, j'ai de bonnes jambes, je retourne à Paris. Je ne peux pas y tenir, Monsieur Rodolphe dira ce qu'il voudra, il se fâchera, il ne voudra plus me voir, possible, mais je le verrai, moi, mais je saurai où il est, et s'il continue la vie qu'il mène, tôt ou tard, j'arriverai peut-être à temps pour me mettre entre un couteau et lui. Et puis enfin, je ne peux pas m'en aller si loin de lui, moi. Je sens je ne sais quoi diable qui me tire du côté où il est. Enfin, il me donne de quoi faire ma route, j'arrive à Paris, je ne boude devant guère de choses, mais une fois de retour, voilà la peur qui me galope. Qu'est-ce que je pourrais dire à M. Rodolphe pour m'excuser d'être revenu sans sa permission? Bah, après tout, il ne me mangera pas, il en sera ce qu'il en sera. Je m'en vas trouver son ami, un gros grand chauve. Encore une crème, celui-là, tonnerre. Quand Monsieur Murph est entré, j'ai dit, mon sort va se décider. Je me suis senti le gosier sec. Mon cœur battait la breloque. Je m'attendais à être bousculé drôlement. Ah ben oui, le digne homme me reçoit comme s'il m'avait quitté la veille. Il me dit que Monsieur Rodolphe, loin d'être fâché, veut me voir tout de suite. En effet, il me fait entrer chez mon protecteur. Tonnerre, quand je me suis retrouvé face à face avec lui, lui qui a une si bonne poigne et un si bon cœur, lui qui est terrible comme un lion et doux comme un enfant, lui qui est un prince et qui a mis une blouse comme moi pour avoir la circonstance, que je bénis, de m'allonger une grêle de coups de poing où je n'ai vu que du feu. Tenez, monsieur Germain, en pensant à tous ces agréments qu'il possède, je me suis senti bouleversé. J'ai pleuré comme une biche. Eh bien, au lieu d'en rire, car figurez-vous ma balle quand je pleurniche, monsieur Rodolphe me dit sérieusement. Vous voilà donc de retour, mon garçon? Oui, monsieur Rodolphe, pardon si j'ai eu tort, mais je n'y tenais pas. Faites-moi faire une niche dans un coin de votre cour. Donnez-moi la pâtée ou laissez-moi la gagner ici. Voilà tout ce que je vous demande, et surtout, ne m'en voulez pas d'être revenu. Je vous en veux d'autant moins, mon garçon, que vous revenez à temps pour me rendre service. Moi, monsieur Rodolphe, il serait possible. Eh bien, voyez-vous qu'il faut, comme vous le disiez, qu'il y ait quelque chose là-haut. Sans ça, comment expliquer que j'arrive ici juste au moment où vous avez besoin de moi? Et qu'est-ce que je pourrais donc faire pour vous, monsieur Rodolphe? Piquer une tête du haut des tours de Notre-Dame? Moins que cela, mon garçon. un honnête et excellent jeune homme, auquel je m'intéresse comme à un fils, est injustement accusé de vol et détenu à la force. Il se nomme Germain. Il est d'un caractère doux et timide. Les scélérats avec lesquels il est emprisonné l'ont pris en aversion. Il peut courir de grands dangers. Vous qui avez malheureusement connu la vie de prison et un grand nombre de prisonniers, ne pourriez-vous pas, dans le cas où quelques-uns de vos anciens camarades seraient là à la force, on trouverait moyen de le savoir, ne pourriez-vous pas les aller voir et, par des promesses d'argent qui seraient tenues, les engager à protéger ce malheureux jeune homme? Mais quel est donc l'homme généreux et inconnu qui prend tant d'intérêt à mon sort? Dit Germain de plus en plus surpris. Vous le saurez peut-être. Quant à moi, j'en ignore. Pour revenir à ma conversation avec M. Rodolphe, pendant qu'il me parlait, il m'était venu une idée, mais une idée si farce, que je n'ai pas pu m'empêcher de rire devant lui. « Qu'avez-vous donc, mon garçon ?» me dit-il. « Dame, monsieur Rodolphe, je ris parce que je suis content, et je suis content parce que j'ai le moyen de mettre votre monsieur Germain à l'abri d'un mauvais coup de prisonnier, de lui donner un protecteur qui le défendra crânement, car une fois le jeune homme sous l'aile du cadet dont je vous parle, il n'y en aura pas un qui osera venir lui regarder sous le nez. « Très bien, mon garçon. » Et c'est sans doute un de vos anciens compagnons? Juste, monsieur Rodolphe. Il est entré à la force il y a quelques jours. J'ai su ça en arrivant. Mais il faudra de l'argent. Combien faut-il? Un billet de 1000 francs. Le voilà. Merci, monsieur Rodolphe. Dans 2 jours, vous aurez de mes nouvelles. Serviteur, la compagnie. Tonnerre, le roi n'était pas mon maître. Je pouvais rendre service à monsieur Rodolphe en passant par vous, c'est ça qui était fameux. Je commence à comprendre, ou plutôt, mon Dieu, je tremble de comprendre, s'écria Germain. Un tel dévouement serait-il possible? Pour venir me protéger, me défendre dans cette prison, vous avez peut-être commis un vol? Oh, ce serait le remords de toute ma vie. Minute, monsieur Rodolphe m'a dit que j'avais du cœur et de l'honneur. Ces mots-là sont ma loi, à moi, voyez-vous, et il pourrait encore me les dire, car si je ne suis pas meilleur qu'autrefois, du moins je ne suis pas pire. Mais ce vol, si vous ne l'avez pas commis, comment êtes-vous ici? Attendez donc. Voilà la farce. Avec mes 1000 francs, je m'en vais acheter une perruque noire. Je rase mes favoris, je mets des lunettes bleues, je me fourre un oreiller dans le dos, et roule ta bosse. Je me mets à chercher une ou deux chambres à louer tout de suite, au rez-de-chaussée, dans un quartier bien vivant. Je trouve mon affaire rue de Provence. Je paie un terme d'avance, sous le nom de Monsieur Grégoire. Le lendemain, je vais acheter au temple de quoi meubler les deux chambres, toujours avec ma perruque noire, ma bosse et mes lunettes bleues, afin qu'on me reconnaisse bien. J'envoie les effets rue de Provence, et de plus, 6 couverts d'argent que j'achète boulevard Saint-Denis, toujours avec mon déguisement de bossu. Je reviens mettre tout en ordre dans mon domicile. Je dis au portier que je ne coucherai chez moi que le surlendemain, et j'emporte ma clé. Les fenêtres des deux chambres étaient fermées par de forts volets. Avant de m'en aller, j'en avais exprès laissé un sans y mettre le crochet du dedans. La nuit venue, je me débarrasse de ma perruque, de mes lunettes, de ma bosse et des habits, avec lesquels j'avais été faire mes achats, et louer ma chambre. Je mets cette défroque dans une malle que j'envoie à l'adresse de Murph, l'ami de M. Rodolphe, en le priant de garder ses nippes. J'achète la blouse que voilà, le bonnet bleu que voilà, une barre de fer de 2 pieds de long, et à 1 heure du matin, je viens rôder dans la rue de Provence devant mon logement, attendant le moment où une patrouille passerait pour me dépêcher de me voler, de m'escalader et de m'effractionner moi-même, afin de me faire emprisonner. Et le Chourineur ne put s'empêcher de rire encore aux éclats. Ah, je comprends, s'écria Germain. Mais vous allez voir si je n'ai pas du guignon. Il ne passait pas de patrouille. J'aurais pu 20 fois me dévaliser tout à mon aise. Enfin, sur les 2 heures du matin, j'entends piétiner les tourlourous au bout de ma rue. Je finis d'ouvrir mon volet, je casse 2 ou 3 carreaux pour faire un tapage d'enfer, j'enfonce la fenêtre, je saute dans la chambre, j'empoigne la boîte d'argenterie, quelques nippes. Heureusement, la patrouille avait entendu le drelin dindin des carreaux, car juste comme je ressortais par la fenêtre, je suis pincé par la garde qui, au bruit des carreaux cassés, avait pris le pas de course. On frappe, le portier ouvre, on va chercher le commissaire, il arrive. Le portier dit que les 2 chambres dévalisées ont été louées la veille par un monsieur bossu, à cheveux noirs et portant des lunettes bleues et qui s'appelait Grégoire. J'avais la crinière de filasse que vous me voyez. J'ouvrais l'œil comme un lièvre au gîte, j'étais droit comme un russe au port d'armes, on ne pouvait donc pas me prendre pour le bossu à lunettes bleues et à crin noir. J'avoue tout, on m'arrête, on me conduit au dépôt, du dépôt ici, et j'arrive au bon moment, juste pour arracher des pattes du squelette, le jeune homme dont Monsieur Rodolphe m'avait dit « Je m'y intéresse comme à mon fils ». Ah, que ne vous dois-je pas, pour tant de dévouement, s'écria Germain. Ce n'est pas à moi, c'est à Monsieur Rodolphe que vous devez. Mais la cause de son intérêt pour moi, il vous la dira, à moins qu'il ne vous la dise pas, car souvent il se contente de vous faire du bien, et si vous avez le toupet de lui demander pourquoi, il ne se gêne pas pour vous répondre « Mêlez-vous de ce qui vous regarde ». « Et Monsieur Rodolphe, sait-il que vous êtes ici ?»« Pas si bête de lui avoir dit mon idée. Il ne m'aurait peut-être pas permis cette farce. Et sans me vanter, hein, elle est fameuse. »« Mais que de risques vous avez courus. Vous courez encore. »« Qu'est-ce que je risquais ? De n'être pas conduit à la force ? Où vous étiez, c'est vrai ?» Mais je comptais sur la protection de Monsieur Rodolphe pour me faire changer de prison et vous rejoindre. Un seigneur comme lui, ça peut tout. Et une fois que j'aurais été coffré, il aurait autant aimé que ça vous serve à quelque chose. Mais au jour de votre jugement, eh bien, je prierai Monsieur Murph de m'envoyer la malle. Je reprendrai devant le juge ma perruque noire, mes lunettes bleues, ma bosse, et je redeviendrai Monsieur Grégoire, pour le portier qui m'a loué la chambre, pour les marchands qui m'ont vendu. Voilà pour le volet. Si on veut revoir le voleur, je quitterai ma défroque, et il sera clair comme le jour que le voleur et le volet, ça fait, au total, le Chourineur, ni plus ni moins. Alors, que diable voulez-vous qu'on me fasse, quand il sera prouvé que je me volais moi-même ? En effet, dit Germain, plus rassuré, mais puisque vous me portiez tant d'intérêt, pourquoi ne m'avez-vous rien dit en entrant dans la prison ? J'ai tout de suite su le complot qu'on avait fait contre vous. J'aurais pu le dénoncer avant que Pique-Vinaigre eût commencé ou fini son histoire. Mais dénoncer même des bandits pareils, ça ne m'allait pas. J'ai mieux aimé ne m'en fier qu'à ma poigne pour vous arracher des pattes du squelette. Et puis, quand je l'ai vu, ce brigand-là, je me suis dit, voilà une fameuse occasion de me rappeler la grêle de coups de poing de Monsieur Rodolphe, auquel j'ai dû l'honneur de sa connaissance. Mais si tous les détenus avaient pris parti contre vous seuls, qu'auriez-vous pu faire? Alors j'aurais crié comme un aigle et appelé au secours, mais ça m'allait mieux de faire ma petite cuisine moi-même, pour pouvoir dire à Monsieur Rodolphe, il n'y a que moi qui me suis mêlé de la chose. J'ai défendu et je défendrai votre jeune homme, soyez tranquille. » À ce moment, le gardien rentra brusquement dans la chambre. « Monsieur Germain, venez vite, vite chez monsieur le directeur. Il veut vous parler à l'instant même. Et vous, Chourineur, mon garçon, descendez à la fosse aux lions. Vous serez prévôt si cela vous convient, car vous avez tout ce qu'il faut pour remplir ces fonctions, et les détenus ne badineront pas avec un gaillard de votre espèce. » « Ça me va tout de même, autant être capitaine que soldat pendant qu'on y est. refuserez-vous encore ma main ? Dit cordialement Germain au Chourineur. Ma foi non, monsieur Germain, ma foi non. Je crois que maintenant je peux me permettre ce plaisir-là, et je vous la sers de bon cœur.
Nous nous reverrons, car me voici sous votre protection. Je n'aurai plus rien à craindre, et de ma cellule, je descendrai chaque jour au préau.
Soyez calme, si je le veux, on ne vous parlera qu'à quatre pattes.
Mais j'y songe, vous savez écrire. Mettez sur le papier ce que je viens de vous raconter, et envoyez l'histoire à Monsieur Rodolphe. Il saura qu'il n'a plus à être inquiet de vous, et que je suis ici pour le bon motif. Car s'il apprenait autrement que le Chourineur a volé, et qu'il ne connaisse pas le dessous des cartes, tonnerre, ça ne m'irait pas. Soyez tranquille, ce soir même je vais écrire à mon protecteur inconnu. Demain, vous me donnerez son adresse et la lettre partira. Adieu encore, merci mon brave.
Adieu, monsieur Germain, je vas retourner auprès de cet tas de gueux dont je suis prévôt. Il faudra bien qu'il marche droit, ou sinon, garde sous.
Quand je songe qu'à cause de moi, vous allez vivre quelque temps encore avec ces misérables.
Qu'est-ce que ça me fait? Maintenant, il n'y a pas de risque qu'ils déteignent sur moi. Monsieur Rodolphe m'a trop bien lessivé. Je suis assuré contre l'incendie.
Et le Chourineur suivit le gardien. Germain entra chez le directeur. Quelle fut sa surprise! Il y trouva Rigolette. Rigolette pâle, émue, les yeux baignés de larmes, et pourtant souriant à travers ses pleurs. Sa physionomie exprimait un ressentiment de joie, de bonheur inexprimable. « J'ai une bonne nouvelle à vous apprendre, monsieur, » dit le directeur à Germain. « La justice vient de déclarer qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre vous. Par suite du désistement et surtout des explications de la partie civile, je reçois l'ordre de vous mettre immédiatement en liberté. »
« Monsieur, que dites-vous? Il serait possible !»
Rigolette voulut parler. Sa trop vive émotion l'en empêcha. Elle ne put que faire à Germain un signe de tête affirmatif en joignant les mains.
« Mademoiselle est arrivée ici peu de moments après que j'ai reçu l'ordre de vous mettre en liberté, » ajouta le directeur. « Une lettre de toute puissante recommandation qu'elle m'apportait m'a appris le touchant dévouement qu'elle vous a témoigné pendant votre séjour en prison, monsieur. C'est donc avec un vif plaisir que je vous ai envoyé chercher, certain que vous serez très heureux de donner votre bras à mademoiselle pour sortir d'ici. »
« Un rêve ! Non, c'est un rêve, » dit Germain. « Ah, monsieur, que de bonté ! Pardonnez-moi si la surprise, la joie, m'empêche de vous remercier comme je le devrais. »
« Et moi donc, monsieur Germain, je ne trouve pas un mot à dire, » reprit Rigolette.
« Jugez de mon bonheur, en vous quittant, je trouve l'ami de monsieur Rodolphe qui m'attendait. »«
Encore monsieur Rodolphe ? » dit Germain étonné.
« Oui, maintenant, on peut tout vous dire. Vous saurez cela, monsieur Murph me dit donc. Germain est libre. Voilà une lettre pour monsieur le directeur de la prison. » Quand vous arriverez, il aura reçu l'ordre de mettre Germain en liberté et vous pourrez l'emmener. »
Je ne pouvais croire ce que j'entendais, et pourtant c'était vrai.
Vite, vite, je prends un fiacre, j'arrive, et il est en bas qui nous attend.
Nous renonçons à peindre le ravissement des deux amants lorsqu'ils sortirent de la force, la soirée qu'ils passèrent dans la petite chambre de Rigolette, que Germain quitta à 11 heures pour gagner un modeste logement garni. Résumons en peu de mots les idées pratiques et théoriques que nous avons tâché de mettre en relief dans cet épisode de la vie de prison. Nous nous estimerions très heureux d'avoir démontré l'insuffisance, l'impuissance et le danger de la réclusion en commun, les disproportions qui existent entre l'appréciation et la punition de certains crimes, le vol domestique, le vol avec effraction, et celle de certains délits, les abus de confiance. Et enfin, l'impossibilité matérielle où sont les classes pauvres de jouir du bénéfice des lois civiles.